Vous écoutez « On lit pour vous ».
Mes lieux militants, une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. Afin de célébrer la 500e publication du Fugue, qui constitue en soi une prouesse pour un magazine LGBTQ+, qui se présente en version papier depuis 1984, j'avais envie de réfléchir à ces lieux de militantisme qui m'habitent depuis la jeune vingtaine. Militante un jour, militante toujours. Militer, c'est s'engager dans l'action pour une cause qui nous tient à cœur, mais à mon sens, c'est souvent une posture politique, voire un état d'être. Certains sont militants dans le sang. Vous savez, ceux qui s'insurgent et montent aux barricades pour défendre la veuve et l'orphelin dès qu'il y a injustice. Personnellement, une simple injustice peut perturber mon sommeil pendant des jours. Cela dit, tout perturbe mon sommeil. J'ai fait mon coming out début vingtaine, aidé par les Anne Trister, à tout prendre. Il était une fois dans l'Est et autres représentations cinématographiques LGBT de ce monde. J'écrirai d'ailleurs un mémoire de maîtrise sur le sujet, puis, près de 20 ans plus tard, j'en publierai un livre chez McGill Queen's University Press. Sans même le savoir, l'écriture fut mon premier lieu et geste militant. Une façon de m'engager dans la réflexion quant à la représentation des LGBT au cinéma et, intrinsèquement, dans la société. Le cinéma, qui deviendra pour moi un autre lieu militant, m'a permis de réfléchir ma place en société et de la revendiquer. Je me souviens qu'après avoir fait mon coming out et vu tous ces films à l'université, j'ai enlevé mes lunettes roses. On dit que le cinéma fait rêver et divertit. Certes, les grands films nous font aussi réfléchir et portent en eux des germes militants. Mon premier film, réalisé pour le compte de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, était d'ailleurs un compte-rendu des premiers Out Games mondiaux tenus à Montréal à l'été 2006. Lors de ce stage à la CDPDJ, j'avais participé à la recherche menant au rapport de l'égalité juridique à l'égalité sociale, vers une stratégie nationale de lutte contre l'homophobie, 2007. Qui dressait un portrait de l'homophobie et proposait des mesures concrètes. Cet important rapport, chapeauté par Monique Audet, a d'ailleurs mené à la politique québécoise de lutte contre l'homophobie en 2009, une politique qui demeure à ce jour l'une des pièces maîtresses de l'action gouvernementale en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Militer, c'est aussi et surtout poser des actions dans l'ombre, parfois même bénévoles, pour faire avancer nos sociétés. Parlant d'implication bénévole, j'ai ensuite été chargée des communications sur le conseil d'administration de l'ensemble vocal Extravaganza, pour lequel j'étais choriste. Après l'écriture et le cinéma, la musique sera pour moi un autre lieu militant privilégié. Ayant écrit un texte pour publiciser le prochain concert de la chorale, je l'ai envoyé au Fugue. Quelques mois plus tard, j'étais embauchée comme journaliste pigiste au magazine. Au-delà de textes sporadiques sur la culture et la communauté, j'avais cette section nommée « Interview » qui proposait des portraits de lesbiennes impliquées dans la communauté afin de rendre visibles leurs paroles et leurs initiatives. J'aime bien ce caractère militant inhérent au journalisme, particulièrement dans le communautaire. On ne le fait pas pour la paye, mais pour la cause. Une cause qui, socialement, n'a pas toujours été acceptée ou en vogue, rappelez-vous. Je me souviens avoir, quelquefois, été traitée comme une sous-journaliste, pratiquant un sous-métier avec un sous-sujet lors de conférences de presse avec les médias grand public. Pour moi, écrire pour Fugue, c'est d'autant plus un geste militant, c'est aller à contre-courant. Bien sûr, il y a une époque où associer son nom et sa photo à un magazine LGBT était plus préjudiciable et certains de mes collègues pourraient vous en parler davantage, mais il m'est déjà arrivé d'avoir des commentaires désobligeants lors de mes débuts dans le métier, il y a 18 ans. C'est notamment pour cette raison que j'ai accepté, il y a près d'une dizaine d'années, d'écrire une chronique qui s'accompagne inévitablement d'une photo. C'est la règle dans le métier. Non pas par narcissisme, mais pour identifier la réflexion à une personne réelle qui, je l'espère, sans nécessairement être considérée comme un modèle, peut inspirer celles et ceux qui auraient honte de leur orientation sexuelle à s'accepter. Bref, devenir en quelque sorte le porte-étendard d'une cause est nécessairement un geste militant. C'est également pour cette raison que, dans mon premier album, à titre d'auteur-compositrice-interprète intitulé « Confession », 2014, j'avais décidé de me confesser authentiquement par le biais de mes chansons pour dévoiler mon homosexualité, mes ruptures amoureuses et l'état sociétal. Je crois que la musique est un art puissant pour passer des messages et même militer pour certaines causes. Prenez la chanson « Imagine » de John Lennon. C'est un appel à l'action pour la paix par l'engagement social. Et ce message des années 70 ne perd pas de sa pertinence aujourd'hui, tout comme ces jeunes hippies au festival de Woodstock en 1969 qui désiraient protester contre la guerre du Vietnam par le pouvoir de la musique. Mon second album, Flower Power Soul, 2017, rend d'ailleurs hommage à cette époque. Rendre hommage, c'est aussi mettre de l'avant les figures militantes qui se sont battues avant nous et célébrer leur engagement. C'est aussi pour cette raison que j'ai écrit la chanson « En plein cœur » en 2019 pour Maison Plein cœur, qui a pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH et que j'ai été porte-parole pour l'organisme pendant des années. Mon action communautaire ne s'arrête pas là. J'ai aussi été responsable des communications pendant 5 ans au Réseau des lesbiennes du Québec. Avec la directrice générale de l'époque, Julie Antoine, j'ai eu la chance de militer en ce lieu en utilisant mes forces militantes, l'écriture, le cinéma et la musique. Je pourrais vous parler de la fameuse anthologie « Archives lesbiennes d'hier à aujourd'hui » 2023, qui revisite l'histoire lesbienne de la Grèce antique à aujourd'hui, où j'y ai mis mes talents de journaliste à profit, ou encore de la myriade de personnalités du milieu présentées dans les livres de « Portraits pour les journées de visibilité lesbienne », sans oublier notre bande dessinée « Lesbos Queer » 2019. Et que dire des films réalisés qui ont été présentés dans plusieurs festivals à travers le monde? Du film expérimental « Femmes, réflexion identitaire » 2018, au film d'animation « Amour irisé » 2022, sans oublier le documentaire « Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, 40 ans plus tard, 2022 », co-réalisé avec Dominique Bourque et Feu Joanne Coulombe, qui voyage encore en festival près de 4 ans après sa réalisation. Je crois fortement en l'art comme lieu de militantisme. En ce sens, militer, c'est aussi, pour moi, produire de l'art. Lorsque l'art est diffusé, il rejoint son public, passe son message, génère l'engagement et parfois même l'action. Enfin, je pourrais également citer des lieux militants plus conventionnels. Je ne compte plus les fois où j'ai manifesté dans la rue avec une pancarte pour les droits des femmes, des LGBT, où j'ai pris part à des événements où la visibilité et l'engagement peuvent devenir une forme de militantisme, que ce soit lors des défilés de Fierté Montréal, la Dyke March, la Journée de visibilité lesbienne, lors de la Journée du 17 mai contre l'homophobie, en faisant une conférence au Gris, en chantant avec les nanas, en prodiguant la tournée « Empowerment des femmes LGBT » dans les universités, et enfin, en enseignant le cinéma aux jeunes, en leur présentant des œuvres d'artistes militants qui voient le monde différemment et qui s'engagent à travers l'art. Et surtout, en leur montrant à développer leur pensée critique afin qu'un jour, ils deviennent eux-mêmes militants. C'était « Mes lieux militants ». Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.
Quel est l'appel téléphonique qui a le plus changé l'histoire? Un collectif par Judith Lachapelle paru le 3 mai 2026 dans la presse. La foire aux questions pose une colle à 4 voix d'horizons variés qui montre qu'il y a souvent plusieurs bonnes réponses. Réponse de Julien Lehoux, historien, coordonnateur du programme éducatif « Je me souviens ». Winston Churchill, en 1941. L'appel entre le président américain Franklin D. Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill, le 7 décembre 1941, est l'un des plus importants de notre histoire. Ce jour-là, le Japon lance une attaque surprise à Pearl Harbor, poussant les États-Unis à s'engager formellement dans la Seconde Guerre mondiale. Aussitôt la nouvelle annoncée, Churchill appelle Roosevelt pour en avoir la confirmation. « Nous sommes dans le même bateau, maintenant », lui aurait répondu Roosevelt. L'appel soulage particulièrement le premier ministre britannique qui s'empresse de confirmer la nouvelle au reste du pays. En effet, selon lui, avec les États-Unis maintenant entrés dans la guerre, la victoire était assurée. Le reste de l'histoire est bien connu. Réponse de Marie-Claude Lortie, journaliste et autrice, Les Répondeuses, en 1977. En 1977, bien avant WhatsApp, Twitter et tout Internet, un groupe de militantes féministes françaises, Les Répondeuses, rebutées par les médias traditionnels auxquels elles ne font pas confiance, décide de profiter de l'arrivée sur le marché d'un nouvel outil électronique révolutionnaire, le répondeur téléphonique. Elles demandent deux choses à leur répondeur. D'une part, enregistrer les messages téléphoniques laissés par des femmes aux mille besoins, dénoncer de la violence, inviter leurs consoeurs à des activités, diffuser une nouvelle politique pertinente, etc. Et, d'autre part, informer les interlocutrices par l'entremise de son message d'accueil. Car, chaque soir, des répondeuses écoutent ce qui leur a été communiqué et résument les informations dans un court enregistrement renouvelé constamment pour toutes celles qui composent le bon numéro. Ce service d'information a existé de 1977 à 1984 et fut, à l'époque, un outil de communication essentiel pour la mobilisation du mouvement féministe français. Réponse de André Duchesne, journaliste retraité de La Presse, un extraterrestre, en 1982. Au cinéma, l'appel téléphonique qui a changé l'histoire remonte au mercredi 26 mai 1982. C'était soir de clôture au 35e Festival de Cannes. Pour l'occasion, on présentait E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg, un petit personnage tombé du ciel et oublié par les siens en Californie. Recueilli par Elliot Henry Thomas et Gertie, Drew Barrymore, E.T. n'a qu'une envie, retourner à la maison. « You want to call somebody ?» lui demande Gertie lorsqu'il pose son index sur le téléphone à bouton. « E.T. phone home », répond-il. Dans la presse du 19 juin 1982, notre regretté collègue Serge Dussault écrivait « E.T. commence un peu là où finissait Close Encounter ». Il avait raison. Dans les deux cas, il était question de communiquer. Réponse de Alexandre Pratt, chroniqueur de la presse. Magic Johnson avant les Jeux olympiques de 1992. En 1989, la Fédération internationale de basketball permet aux joueurs de la NBA de participer aux Jeux olympiques. Encore fallait-il les convaincre d'y aller. Larry Bird, blessé, souhaitait passer plus de temps avec ses proches. Michael Jordan adorait passer ses étés sur les verts. C'est à Magic Johnson, troisième grande étoile de l'époque, que revient la tâche de les enrôler. Il leur lâche chacun un coup de fil. Bird accepte. Jordan, c'est plus difficile, reconnaîtra Johnson après coup. Je lui ai dit, on se tiendra ensemble tous les soirs. On jouera aux cartes. Tu pourras jouer au golf toute la journée. Tout ce que je te demande, c'est de venir compter 30 points dans la première demi, puis de t'asseoir. Finalement, Jordan embarque. Ainsi naît la Dream Team, la formidable équipe américaine de basketball qui changera à jamais les tournois olympiques, notamment celui de hockey, que les étoiles de la LNH rejoindront en 1998. C'était « Quel est l'appel téléphonique qui a le plus changé l'histoire? » Un collectif par Judith Lachapelle, paru le 3 mai 2026 dans La Presse.
Le mammouth s'est remis à marcher. Un texte de Francis Vaille, paru le 2 mai 2026 dans La Presse. Les médias sont remplis d'anecdotes dramatiques à propos du réseau de la santé du Québec. De l'attente interminable aux urgences, au délai inadmissible de traitement de certains cas de cancer, tout y passe. Or, pris dans son ensemble, le réseau de la santé affiche plusieurs éléments d'amélioration notable des services, avec, en prime, une situation budgétaire stabilisée, tant et si bien que le réseau est redevenu aussi performant qu'avant la pandémie. Vous me direz que ce portrait positif est forcément biaisé, puisqu'il m'a été dressé par la vice-présidente aux finances de Santé Québec, Sonia Dugas. Vous n'avez pas complètement tort, mais force est de constater que plusieurs voyants sont au vert, selon les renseignements qui m'ont été transmis en toute transparence. D'abord, Santé Québec commence l'année financière sans déficit à résorber, ce qui ne s'était pas vu depuis quelques années. À pareille date l'an dernier, Santé Québec devait réduire ses dépenses de 925 millions de dollars par rapport à la tendance qui se dessinait. Or, les économies se chiffreront plutôt aux environs de 1,1 milliard et même un peu plus. Les derniers chiffres de l'exercice terminé le 31 mars 2026 ne sont pas encore disponibles. Au pire, le déficit final avoisinerait 250 millions, soit environ 0,5% du budget de quelque 45 milliards de Santé Québec. L'exercice d'optimisation de 2025 avait frappé en particulier 9 des 30 centres hospitaliers du réseau. La situation est moins difficile cette année, avance Mme Dugas, puisqu'aucun des 30 centres n'aura un budget moindre que celui de l'année qui se termine, selon les enveloppes qui leur ont été transmises. Certains voient leur budget augmenter de seulement 0,5%. Cependant, ce sont des établissements dont les coûts sont généralement plus élevés que la moyenne. Parmi eux figurent le CHU Sainte-Justine, le CISSS de la Côte-Nord et le CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. En revanche, d'autres voient leur budget augmenter de plus de 7%, comme c'est le cas du CISSS de Lanaudière. Au total, le budget de l'ensemble de Santé Québec atteindra 46,4 milliards en 2026-2027, en hausse de 3,5% par rapport à l'année qui se termine. A-t-on charcuté les services pour y arriver ? Pas selon ce qu'affirme la VP aux finances de Santé Québec, au contraire. Et elle a plusieurs indicateurs pour le démontrer. Par exemple, à la fin de l'année budgétaire, 12 633 personnes âgées étaient en attente d'un premier service de soutien à domicile. C'est encore beaucoup, mais c'est en baisse de 27,5% par rapport aux 17 432 personnes de 2025. Même genre d'amélioration pour l'accès aux services de santé mentale. Quelque 74% des demandeurs ont eu un premier service dans les délais prescrits, contre 66% en 2025. Les services jeunesse, environ 69% avaient eu accès à un service dans les délais prescrits à la fin de mars 2026, contre 64% un an plus tôt. Quant à la chirurgie, les patients en attente d'une opération depuis plus d'un an sont maintenant au nombre de 3 969, près de deux fois moins qu'il y a un an, 7 121, et surtout, il s'agit d'un retour au niveau d'avant la pandémie. On a consolidé le réseau. Ce n'est pas parfait, mais on a fait de grands pas. Et pour moi, c'est phénoménal. C'est un travail collectif sans précédent. On a une dynamique de collaboration étroite avec nos équipes. Ce n'est pas que financier, bien que le modèle financier soit un levier incroyable pour miser sur les bons comportements, me dit Sonia Duga en entrevue. Mais comment a-t-on fait plus avec moins ? En 2025, la direction de Santé Québec avait constaté que sur les 10 milliards ajoutés dans le réseau depuis la pandémie, seulement 18% s'était traduit par une hausse des volumes de services offerts. Le reste s'expliquait par les coûts du système, 32%, mais surtout par une baisse de productivité, 35%, c'est-à-dire des coûts moyens par service offert plus élevés. Santé Québec a donc passé au peigne fin les dizaines d'activités des centres hospitaliers, administration, imagerie, urgence, prélèvement, aide à domicile, etc., et constaté des écarts dans le coût de prestation des services. On a donc demandé aux centres plus coûteux de ramener à la moyenne les coûts de leurs activités. Un an plus tard, l'exercice semble avoir donné des résultats, puisque plusieurs des centres n'ont pas à refaire la même chose en 2026. Parmi les gestes posés, des centres hospitaliers ont réduit les délais entre les interventions chirurgicales dans les blocs opératoires, le montage et le démontage des salles. De plus, certains centres en manque de capacité ont transféré des volumes en chirurgie à d'autres qui pouvaient les prendre, pour diverses raisons. C'est ça la force du réseau, dit Madame Duga. Pour le service à domicile, un meilleur séquençage des visites a été établi, permettant une réduction des temps de déplacement routier entre chaque logement visité et une augmentation du nombre de visites. Santé Québec a aussi, bien sûr, réduit de façon draconienne le recours aux coûteuses agences privées, surtout pour des infirmières, grâce à une réorganisation interne du travail. Au cours de l'année 2025-2026, les agences se sont vues octroyer seulement 3,2 millions d'heures de travail, soit trois fois moins que les 9,9 millions d'heures de l'année précédente et huit fois moins que les 24 millions d'heures de 2024. En somme, on a réduit le coût unitaire des services. Ce travail d'augmentation de la productivité n'est pas terminé. Mais Sonia Duga a bon espoir que les améliorations se poursuivront en raison de l'approche de Santé Québec et des efforts de collaboration du réseau. Organisation des budgets. Avant, les sommes allouées à chacun des établissements hospitaliers étaient basées sur leur budget passé sans aucun lien avec les volumes de services offerts. Or, désormais, 44% des budgets sont alloués en fonction des volumes de services réalisés. On sert plus de patients, on obtient plus. Cette année, Santé Québec a raffiné sa comparaison des coûts moyens des services de chaque établissement, y ajoutant une composante socio-démographique qui tiendra compte de la lourdeur des patients. Autre nouveauté, une partie du budget, 24%, sera désormais allouée selon la dépense attendue pour 16 activités différentes, tirées des meilleures pratiques du réseau. Voilà un portrait qui fait réfléchir. Les cas inadmissibles rapportés dans les médias reflètent certainement des carences de notre réseau. Mais force est de constater que le mammouth qui accueille 140 000 usagers par jour recommence à avancer. C'était « Le mammouth s'est remis à marcher », un texte de Francis Vail, paru le 2 mai 2026 dans La Presse.
Un mot inventé pour piéger les plagiaires. Un texte d'Isabelle Haché paru le 3 mai 2026 dans La Presse. Esquivalience, évitement délibéré de ses responsabilités officielles. Le fait de se dérober à ses devoirs. C'est, du moins, la définition du New Oxford American Dictionary. Une définition plus juste serait plutôt celle-ci. Mot qui n'existe pas. Piège à plagiaire. En effet, le New Oxford American Dictionary a glissé ce mot inventé de toutes pièces dans les pages de sa première édition en 2001 afin de protéger ses droits d'auteur. Il est plus facile de prouver qu'un concurrent vous plagie s'il répète vos erreurs, délibérées ou non. Esquivalience s'est d'ailleurs retrouvé dans au moins un dictionnaire en ligne. En France, dans les années 1990, les éditions Larousse et Le Robert ont poursuivi les rédacteurs du Maxi Dico, un nouveau dictionnaire offert à une fraction du prix de ses concurrents. Pour démontrer la contrefaçon, les deux maisons d'édition ont mis de l'avant les similitudes troublantes dans les définitions, souvent reproduites mot à mot. Mais l'élément décisif, au procès, a été la découverte d'erreurs reproduites telles quelles dans le Maxi Dico. On s'est aperçu que, lorsqu'il y avait une coquille dans le Robert, il y avait la même dans le Maxi Dico. Ils se sont fait prendre la main dans le sac, raconte le linguiste français Jean Pruvot, spécialiste des dictionnaires. C'est ainsi que les rédacteurs du Maxi Dico ont été reconnus coupables de parasitisme intellectuel. Au Québec, le dictionnaire Usito de l'Université de Sherbrooke a ajouté le mot « emportiérage » à sa nomenclature en mai 2015, accompagné d'une définition « incident qui survient lorsqu'un cycliste heurte une portière ouverte inopinément par un automobiliste dont le véhicule est à l'arrêt ». Cette définition était maladroite à plusieurs égards. D'abord, le terme « incident » était trop léger pour une infraction au code de la sécurité routière qui peut avoir des conséquences graves. Ensuite, la structure de la phrase laissait croire que le cycliste était en faute et non l'automobiliste. Le mot « emportiérage » a été ajouté à la version 9 d'Antidote, lancée en novembre 2015. Sa définition comportait les mêmes maladresses que celle d'Usito. Incident survenant lorsqu'un cycliste heurte une portière subitement ouverte sur sa trajectoire par l'occupant d'un véhicule automobile à l'arrêt. La linguiste et lexicographe Nadine Vincent, collaboratrice principale à la rédaction et à la révision du dictionnaire Usito, se souvient d'avoir été frappée par ces similitudes. J'avais regardé ce qu'avait fait Antidote et j'avais été très étonné de voir qu'ils avaient notre définition fautive. Se rappelle-t-elle. Usito a corrigé sa définition d'emportiérage en octobre 2017 qui se lit dorénavant ainsi. Accident qui survient lorsqu'un automobiliste à l'arrêt, ouvrant inopinément une portière, cause une collision avec un cycliste en mouvement. La définition d'antidote, par contre, est restée la même. C'était un mot inventé pour piéger les plagiaires, un texte d'Isabelle Haché paru le 3 mai 2026 dans La Presse.